Covid long. Nos infections passées augmentent-elles le risque? Avec un Covid long, il est tentant de chercher ce qui aurait pu fragiliser l'organisme avant l'infection. Mononucléose ancienne, herpès, maladie de Lyme, mycose répétée, parasites, sérologie positive. La réponse scientifique est plus étroite que les récits circulant en ligne. On ne sait pas additionner ces traces infectieuses pour calculer un risque individuel validé. En revanche, SARS-CoV-2 peut perturber le contrôle immunitaire d'agents persistants ou latents. La fausse bonne idée de la charge infectieuse. Il n'existe pas de score validé qui additionne le virus d'Epstein-Barr, appelé EBV, herpès, Lyme, candida ou parasite pour prédire un Covid long. L'expression charge infectieuse passée donne une impression de logique comptable. Elle mélange pourtant des réalités différentes. Mononucléose ancienne, Lyme traité, herpès récurrent, colonisation par candida et parasitose active ne se mesurent pas sur la même échelle. Le bon raisonnement est clinique. L'organisme contrôle-t-il les agents persistants ou latents après SARS-CoV-2? Cette nuance évite de transformer chaque ancien positif en menace permanente, tout en reconnaissant que certaines réactivations peuvent accompagner une dysrégulation post-Covid. L'œil du docteur en pharmacie. Un résultat biologique n'est pas un traitement. Avant tout anti-infectieux, il faut le relier aux symptômes, à l'exposition, à la chronologie et au risque iatrogène. Sérologie positive ne veut pas dire infection active. Pour EBV comme pour Lyme, les autorités sanitaires rappellent que les anticorps peuvent persister longtemps après l'infection. Le piège le plus fréquent est l'interprétation isolée des immunoglobulines G. Pour EBV, les autorités sanitaires américaines rappellent que plus de 90% des adultes ont déjà été infectés, que les anticorps de type G dirigés contre la capside virale persistent habituellement à vie, et que des anticorps élevés peuvent rester présents des années sans prouver une infection récente. Pour Lyme, les anticorps peuvent aussi rester positifs longtemps après disparition de la bactérie. Une sérologie ancienne peut donc expliquer une rencontre passée avec l'agent, pas nécessairement les symptômes actuels. Pour les virus de la famille de l'herpès, le raisonnement combine contexte clinique, sérologie prudente et, dans certaines situations spécialisées, détection directe. Pour Lyme, l'exposition et les manifestations compatibles se discutent selon un algorithme diagnostique validé, sans faire d'une PCR sanguine un standard. Pour Babesia, l'exposition à certaines tiques, la fièvre, l'hémolyse, l'anémie ou la thrombopénie oriente ensuite vers frottis ou PCR selon le contexte. Pour Candida, il faut distinguer colonisation, candidose muqueuse et infection invasive. Pour les parasites, l'exposition géographique, les symptômes et le parasite suspecté guident les tests. Avertissement. Les panels commerciaux larges promettent parfois de révéler une charge infectieuse cachée. Leur risque est de produire des positifs anciens ou ambigus, puis d'entraîner des traitements longs et non ciblés. Un bilan utile commence par une hypothèse clinique précise, pas par un inventaire maximal. EBV est virus de la famille de l'herpès. Un signal réel, pas une cause unique. EBV ressort dans plusieurs cohortes de Covid long, mais les études ne disent pas toute la même chose et ne prouvent pas une causalité individuelle. EBV, virus de l'herpès de type 1 et 2, virus varicelle zona, cytomégalovirus, herpès virus humain de type 6 appartiennent au virus de la famille de l'herpès. Ils persistent après la primo-infection, sous contrôle immunitaire. La simple séropositivité EBV, présente chez la grande majorité des adultes, n'est pas le signal associé au Covid long. Il faut distinguer ancienne séropositivité, marqueur sérologique compatible avec réactivation récente, détection d'ADENNE EBV pendant le Covid aigu et réplication active persistante. Dans une étude publiée en 2022, l'ADENNE EBV détecté tôt pendant le Covid aigu était associé à certains symptômes ultérieurs, sans prouver une causalité. Dans le Journal of Clinical Investigation, des marqueurs compatibles avec une réactivation récente, notamment EAD immunoglobuline G, étaient associés à certains phénotypes, avec un signal plus net pour la fatigue. L'étude ne retrouvait pas de virémie et BV persistante liées au Covid long. Au suivi. Dans une étude publiée en 2023, des anticorps plus élevés contre certains antigènes lytiques et BV ou virus varicelle zona suggéraient une activité ou une réactivation récente, pas une réplication virale directement démontrée. Comment SARS-CoV-2 pourrait-il réveiller un virus dormant? Une réponse interféron perturbée, une baisse d'activité des cellules cellultueuses naturelles, une lymphopénie ou un épuisement fonctionnel des lymphocytes TCD8 peuvent relâcher le contrôle antiviral. L'activation des lymphocytes B et le passage d'un programme latent vers un programme lytique peuvent ajouter une stimulation antigénique. Interleukine 1, interleukine 6 et facteurs de nécrose tumorale peuvent entretenir l'inflammation. Le mimétisme moléculaire reste une hypothèse prudente, pas une explication générale. Les contre-signaux comptent. Une étude publiée en 2023 n'ont pas trouvé d'ADENNE et BVNI de différence sérologique dans une population de donneurs de sang après Covid asymptomatique ou léger, ce qui limite la généralisation aux formes plus sévères ou aux sous-groupes très symptomatiques. Une étude publiée en 2025 suggère une association entre génétique de la voie interleukine 1, marqueur de réactivation et BV et dysfonction pulmonaire objective, pas tout le Covid long. Idéal. N'observe pas de différence significative des signaux sanguins et BV, virus de l'herpès, virus varicelle zona ou cytomégalovirus entre Covid long et témoin rétabli. Cela n'exclut pas formellement une activité antérieure, localisée ou tissulaire, mais évite de surconclure. Lyme, Bartonella, Babesia. Chercher une infection active. Les infections vectorielles peuvent mimer ou compliquer un tableau de fatigue chronique, mais leur présence passée ne suffit pas à expliquer un Covid long. Borrelia est une bactérie responsable de la borréliose de Lyme. Babesia est un protozoaire qui vit à l'intérieur des globules rouges transmis par certaines tiques, pas une bactérie. Bartonella regroupe plusieurs bactéries, avec des modes de transmission et des syndromes différents. La transmission humaine par tique ne doit pas être présentée comme établie de façon générale. Ces agents ne forment donc pas un bloc homogène. Une suspicion active se discute médicalement avec le territoire, l'exposition, la saison, le calendrier et des signes objectifs. Fièvre inexpliquée, sueur, anémie, thrombopénie, hémolyse, éruption évocatrice, atteinte neurologique objective ou exposition à risque. Les données disponibles ne permettent pas de conclure qu'une infection ancienne par ces agents augmente globalement le risque de Covid long. Utiliser une ancienne sérologie pour expliquer tout le tableau expose à des traitements prolongés sans bénéfice établi. Parasites, Candida, mycobioteuse. Données fragiles. Le microbiote fongique et certaines parasitoses influencent l'immunité, mais cela ne prouve pas que Candida ou un parasite caché cause le Covid long. Les données sur les parasites sont délicates. Une cohorte éthiopienne a observé, pendant la phase aiguë du Covid, une association entre co-infection parasitaire intestinale et formes moins sévères. Cela ne dit pas qu'une parasitose protège du Covid long. Cela montre surtout que l'immunologie des parasites ne se réduit pas à plus d'infections égale plus de risques. Pour Candida et le mycobioteuse, les données restent indirectes. Chez l'humain, des travaux sur le Covid sévère décrivent une expansion intestinale de Candida albicans, des anticorps antifongiques plus élevés, une neutrophilie et une reprogrammation prolongée de progéniteurs myéloïdes. D'autres données montrent des altérations du microbiome fongique pendant l'hospitalisation. Dans des modèles murins, Candida albicans augmente la neutrophilie pulmonaire et la formation de filets extracellulaires par les neutrophiles, partiellement réduites par antifongique ou blocage récepteur de l'interleukine 6. Ce n'est pas une preuve de traitement antifongique ou antirécepteur de l'interleukine 6 chez l'humain Covid long. Candida peut être commensal, opportuniste ou pathogène selon le contexte. Colonisation, candidose muqueuse ou infection invasive ne signifie pas la même chose. Ces résultats ne valident donc pas la candidose chronique comme cause standard du Covid long. Le terrain immunitaire comme chef d'orchestre. Le Covid long ressemble davantage à une perte de régulation qu'à l'effet mécanique d'un stock d'infections passées. Et plusieurs travaux récents décrivent, chez des sous-groupes, une activation inflammatoire persistante, des anomalies de cytokines, du complément, du métabolisme ou du cortisol. Une étude publiée en 2026 documente une association avec des voies inflammatoires, JAK-STAT, interleukine 6, complément, métabolisme et épuisement T. Cette étude ne démontre pas que toutes les infections latentes se réactivent, ni qu'un seul mécanisme explique tous les patients. Ce terrain peut être influencé par l'âge, le sommeil, les traitements immunomodulateurs, l'état métabolique, les réinfections SARS-CoV-2, les comorbidités, l'intestin et les facteurs génétiques. Une ancienne infection peut donc compter comme élément d'un réseau, pas comme verdict isolé. Ce que les études permettent vraiment de dire. Les études soutiennent une association avec certaines réactivations, surtout EBV, mais elles ne permettent pas de classer les patients par addition de sérologie positive. Les cohortes disponibles diffèrent par définition du Covid long, délai après infection, symptômes, sévérité initiale, marqueurs et témoins. Certaines mesurent l'ADENNE virale, d'autres les anticorps ou des profils immunitaires larges. Elles ne répondent pas à la même question. Un marqueur EBV élevé peut signifier réactivation récente, mémoire forte, réponse polyclonale ou biais inflammatoire. Des altérations du mycobioteuse peuvent être cause, conséquence ou témoin de traitement, hospitalisation, alimentation ou inflammation intestinale. Les études utiles relient chronologie, symptômes, marqueurs robustes et mécanismes plausibles. Quels examens discuter sans se disperser? La bonne stratégie consiste à partir des symptômes et des expositions, puis à choisir les tests qui peuvent réellement modifier la discussion médicale. Pour les virus de la famille de l'herpès, une sérologie et BV complète distinguent surtout absence de contact, infection ancienne et primo-infection récente. Conclure à une réactivation EBV sur sérologie seule reste difficile, et à des immunoglobulines je n'ai pas spécifique isolément. La détection directe, par exemple PCR-EBV, cytomégalovirus ou herpesvirus humain de type 6, se discute surtout en cas d'immunodépression, de cytopénie ou atteinte viscérale inexpliquée, de suspicion d'infection d'organes ou d'avis spécialisés. Une PCR négative tardive n'exclut pas une réactivation transitoire pendant la phase aiguë. Elle dit seulement ce qui est détectable au moment du test. Un déficit humoral peut aussi rendre certaines sérologies moins interprétables. Pour l'AIM, l'exposition et les manifestations compatibles orientent vers les tests recommandés. Une PCR sanguine n'est pas le standard de dépistage. Pour babésia, l'exposition, la fièvre, l'hémolyse, l'anémie ou la thrombopénie orientent vers frottis ou PCR selon le contexte. Pour candida, on distingue colonisation, candidose muqueuse et infection invasive. Avant de tester. Que fera-t-on différemment si le résultat est positif, négatif ou ambigu? Évitez les pièges de prise en charge. Le principal risque pratique est de basculer d'une hypothèse mécanistique vers des traitements anti-infectieux longs sans preuves suffisantes. Les antiviraux, antibiotiques, antifongiques et antiparasitaires ont des indications précises. Mal utilisés, ils peuvent provoquer toxicité, interaction, résistance, dysbiose ou retard diagnostique. Dans un syndrome fluctuant, il devient difficile de distinguer aggravation spontanée, effet indésirable ou absence d'efficacité. L'alternative concrète. Documenter la chronologie, repérer les signes d'infection active, vérifier les diagnostics différentiels, prioriser les examens interprétables et replacer chaque résultat dans le tableau global. Cette rigueur évite de nier les réactivations réelles sans transformer chaque trace du passé en cause certaine. Ce qu'il faut retenir. Les infections passées ne sont ni à ignorer ni à dramatiser. Elles deviennent pertinentes lorsqu'elles laissent des indices d'activité actuelle, de réactivation ou de perte de contrôle immunitaire, pas lorsqu'elles apparaissent seulement comme anciennes traces sérologiques. La priorité de sécurité est d'éviter les raisonnements automatiques. Test positif donc infection active donc traitement empirique donc amélioration attendue. Dans le Covid long, cette chaîne est trop fragile. Que faire concrètement avec cet article? Reprendre la chronologie. Date du Covid, rechute, infection intercurrente, fièvre, ganglion, éruption, exposition à tic, voyage, antibiotiques ou immunosuppresseurs. Relire les résultats. Reprendre les examens avec le professionnel de santé en recherchant les anomalies cohérentes avec l'agent et le tableau suspecté. Éviter les raccourcis. Ne pas engager de traitement anti-infectieux long sur la seule base d'un panel positif ou d'une hypothèse de charge infectieuse. Information à visée éducative, non substituable à un avis médical individualisé.